Culture,
littérature,
Auditrices et auditeurs de Transistor, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette quatrième émission de Transversar pour votre bain culturel hebdomadaire. Vous dites plutôt de Stil ou de Steil? Et si je vous dis Mondrian, Van Desbourg ou néoplasticisme, que vous évoquent ces termes exotiques? C'est justement la question que nous sommes allés poser aux élèves de l'école. Dans la première partie de l'émission, vous pourrez donc écouter leurs réponses et leurs performances. Pourquoi toutes ces questions? Je laisse à Nina le soin de lever le voile sur ce mystère.
Pourquoi en effet ces questions étranges et ces lointaines sonorités aux consonances néerlandaises? Tout simplement à l'occasion de l'exposition que le Centre Pompidou consacre depuis le 1er décembre au groupe d'avant-garde de Stil et à une de ses plus célèbres bien que satellitaires figures, le peintre Piet Mondrian. C'est pour vous en apprendre plus sur ce mouvement trop peu connu en France et vous inciter à aller voir la belle exposition du Centre Pompidou que nous vous proposons, dans notre petit salon, une rencontre avec Aurélien Lemonnier, l'un des commissaires de l'exposition de Stil. Et enfin, bien sûr, pour terminer l'émission, vous retrouverez notre canonique chronique Regard sûr, et cette fois-ci, c'est Thibaut Becchini qui s'est livré à l'exercice. Mais tout de suite, à vous la parole, on écoute le micro-trottoir.
C'est sur quoi cette fois?
De Stil.
De Stil. Je ne le connais pas.
À ton avis, c'était qui?
Tu me prends pour un lettreux, on dirait.
De Stil.
De Stil.
Tu veux essayer?
Non. Bonjour. J'ai déjà été la victime là.
De Stil.
De Stil.
Style.
De Stil.
De Stil.
De Stil.
Merci.
De Stil. Non, c'est pas de Stil, simplement.
Ça t'évoque quoi?
Un album des White Stripes.
De Stil. De Stil.
Et est-ce que tu te définirais plutôt comme néoplasticisme ou Bauhaus?
C'est une vraie question. J'en sais rien.
D'accord. Des Stil.
De Stil.
De Stil. C'est pas
bien,
ça.
Ça va bien prononcer ça.
Je sais pas, moi, vu les consonants, je dirais des Stil. C'est genre flamand.
Des Stilge.
De Stil.
De Stil.
De Stil.
De Stigle.
De Stigle.
C'est banal.
Tu veux qu'on prononce ça comment?
Van Desbourg, parce que ça sonne bien.
Je suis très mauvais en prononçant.
Ah non, mais moi, non. Vous n'arrivez à rien du tout avec moi, de toute façon.
Ah, Mondrian, j'imagine des choses plus abstraites, avec des lignes et des carrés de couleurs.
Moi, je suis un scientifique, j'ai un peu du mal à...
Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit Mondrian?
Des couleurs et des formes.
Des Stigles. Qu'est-ce que c'est?
Mais là, vous me perturbez. Ça sera pas diffusé, ce que je viens de dire.
Le mouvement de Stil, qu'est-ce que ça t'évoque?
Mais...
Je sais pas ce que c'est.
Moi, ça m'évoque qu'on sent con.
Le style.
C'est l'artiste, là, qui fait les trucs avec monotone et un peu de couleur.
Le tableau sur Broadway, pendant l'exil de Mondrian à New York, durant la Seconde Guerre mondiale.
De Stil, peinture très abstraite avec des lignes noires et des carrés de couleurs.
De Stil. C'est de l'allemand, ça?
C'est du néerlandais.
Oh la vache.
Mondrian, si ça me dit quelque chose. Je suppose que c'est une citadelle. Je dirais plutôt vers les Flandres, non?
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont répondu. Nous saluons votre imagination et votre répartie. Bravo. Comme vous avez pu le constater, ces noms d'artistes et de mouvements sont pour nous tous assez étrangers. La suite de l'émission devrait vous éclairer.
Et en effet, Célia, car nous vous invitons, vous, auditeurs, maintenant, à passer dans notre petit salon, ou plutôt dans un petit salon délocalisé, puisque c'est au Centre Pompidou, au beau milieu de l'exposition de Stil, que Transversar est allé s'entretenir avec Aurélien Lemonnier, architecte et commissaire avec Frédéric Miguerou de l'exposition de Stil. Alors imaginez, l'exposition n'est pas encore ouverte, les échelles peuplent encore les salles, il manque quelques cartels, mais tout le reste est prêt, les œuvres sont en place et le rideau est prêt à se lever sur le mouvement de Stil. Aurélien Lemonnier, bonjour. Vous
bonjour.
Êtes donc commissaire avec Frédéric Miguerou de l'exposition Mondrian de Stil, de la partie de Stil de cette exposition
oui. Qui
se tient en ce moment au Centre Pompidou. Alors pour commencer sans doute la question la plus simple et la plus redoutable, finalement, qu'est-ce que de Stil? Une revue, un groupe d'artistes, une nébuleuse?
Oui, de Stil, c'est effectivement un grand mouvement d'avant-garde.
C'est une plateforme d'artistes. C'est une nébuleuse, comme vous le dites, un ensemble d'artistes qui se réunissent, qui débattent, mais qui est constitué à l'initiative d'un acteur principal, qui est Théo van Doesburg. Théo van Doesburg est un peintre plus jeune que Mondrian, qui, à partir de 1917, fédère autour de lui des personnalités déjà très renommées en Hollande, comme Mondrian et comme Bart van der Leck, et qui, avec donc ses amis peintres, va fonder une revue qui s'appelle De Stijl. De Stijl, d'une certaine manière, l'homogénéité de ce mouvement qui n'est pas homogène, son homogénéité s'inscrit par la création de cette revue et son existence entre 1917 et 1931, date à laquelle décède Théo van Doesburg. L'idée de Théo van Doesburg, c'était effectivement de fabriquer cette revue pour organiser des collaborations. Des collaborations avec des architectes, des collaborations avec des graphistes et, à la fin des années 20, des collaborations sur la question de la ville.
Et à ce moment-là, quelle serait la différence entre la personnalité de Mondrian qui, quand même, dans le récit de l'histoire de l'art, est celle qui est restée comme personnalité dominante, qui a ici, dans cette exposition, son espace particulier. Donc cette personnalité, le travail de Mondrian et le travail du groupe de Stijl.
Mondrian, c'est évident, c'est le peintre absolu, c'est certain. Claude Parent disait à Frédéric Miguérou, qui est donc le commissaire avec moi de l'expo de Stijl, Claude Parent disait Mondrian est deux fois un grand peintre. Et effectivement, quand Mondrian arrive à Paris en 1912 et engage ce travail du néoplasticisme et de l'abstraction géométrique, il est déjà un très grand peintre. Et finalement, Mondrian ne veut être que un peintre, d'une certaine manière, et refuse l'idée que la peinture puisse trouver des champs d'application dans l'architecture et encore moins dans la ville. Ce qui finalement distingue fondamentalement Mondrian de van Doesburg, c'est cette idée justement que Mondrian reste et dans l'absolu sur la question de la peinture et sur la question de la planéité de la peinture. C'est-à-dire que non seulement Mondrian ne va pas vers des collaborations avec des architectes, mais surtout affirme que la peinture n'existe que dans ce plan qui est le plan du tableau. Van Doesburg, à l'inverse, lui, va chercher des collaborations. Et dès 17, va chercher des collaborations avec des architectes aux Pays-Bas, notamment avec Oud, qui sera le grand architecte moderne hollandais.
Et si à ce moment-là, si on pense à un autre mouvement qui sans doute a aussi quand même écrasé de Stijl dans l'histoire de l'art tel qu'on l'a raconté, c'est le Bauhaus, c'est-à-dire un mouvement qui, lui, par contre, s'est étendu vers l'architecture, le design.
Oui.
Comment est-ce qu'on pourrait les différencier? Quel a été sans doute le rôle d'influence qu'a pu jouer de Stijl par rapport au Bauhaus?
Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, le Bauhaus est créé à Weimar en 1919. Et de Stijl commence 2 ans avant. Donc il y a une antériorité. La seconde chose, c'est qu'effectivement, il y a une influence très forte, parce qu'entre 1919 et 1922, le Bauhaus de Weimar est toujours expressionniste. Vous avez des figures majeures, Kandinsky et Johannes Itten, qui sont justement dans cette vision encore très expressionniste. Et en 1922, van Doesburg va à Weimar, pensant que Walter Gropius lui ouvrirait les portes du Bauhaus, ce que s'empresse de ne pas faire Walter Gropius, puisque Gropius est très effrayé par cette espèce de troublion, cet agitateur permanent qui était au van Doesburg, et donc refuse à van Doesburg d'enseigner dans le Bauhaus. Ce que van Doesburg accepte, mais en fait fait une école alternative pendant un an et dispense à côté du Bauhaus des cours sur De Stijl où viennent des étudiants du Bauhaus. Et d'une certaine manière, 1922, c'est le moment où le Bauhaus commence à passer véritablement vers ce rationalisme et véritablement sur cette abstraction géométrique, ce qu'il n'était pas avant. Et d'une certaine manière, l'influence de van Doesburg se fait de façon sourde, mais de façon évidente. C'est-à-dire que la charnière qui fait que le Bauhaus devient verse dans l'abstraction géométrique, c'est au contact, en effet, de Théo van Doesburg. Le troisième élément de réponse, c'est plus un élément de réception, c'est que van Doesburg meurt en 1931, et rien ni personne n'organise sa réception internationale au-delà de sa mort. Ce qui est absolument évidemment pas le cas du Bauhaus, puisque tous les architectes, les plus grands architectes du Bauhaus, Gropius ou Mies van der Rohe, eux, à partir de entre 33 et 39, immigrent aux États-Unis et refont le Bauhaus sous l'égide du MoMA en s'inscrivant dans cette idée totalement fonctionnaliste du style international. Et c'est vrai que les Américains organisent la réception, enfin la généralisation du modèle du Bauhaus d'une part, et la réception internationale de Mondrian se fera, non pas quand il sera à Paris, mais quand il sera aux États-Unis. Mondrian meurt en 1944, mais à partir de 1938, déménage, enfin quitte la France pour aller d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis. Donc en fait, la réception internationale de Mondrian est organisée depuis une lecture américaine. Et c'est vrai que De Staël et Théo van Doesburg sont absorbés comme un épiphénomène, soit un épiphénomène autour de Mondrian, soit un épiphénomène autour du Bauhaus. Et c'est le projet de l'exposition, c'est de retrouver, ou de mettre à jour, en tout cas, d'affirmer, de rendre clair et rendre lisible ces sources hollandaises, d'une part. Comme je disais tout à l'heure, Mondrian, avant d'être le Mondrian du néoplasticisme, est déjà un très grand peintre, autour duquel gravite déjà tout le cercle théosophique qui constitue le noyau originel de De Staël. Et d'autre part, De Staël, c'est aussi un mouvement qui aura, à partir du milieu des années 20, son implantation à Paris. Mondrian est à Paris, van Doesburg est à Paris, il construit l'Aubette en 25, 26 à Strasbourg, Van Tongerlo est à Paris, et les épigones du mouvement de Staël, des gens comme Félix Delmarle ou des gens comme Gorin, sont également en France. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en arrière-plan de cette activité internationale qu'a Théo van Doesburg, puisqu'il est dans toutes les revues d'avant-garde européennes, Le mouvement de Staël est d'abord un mouvement hollandais, puis un mouvement finalement français, ou en tout cas implanté en France.
Mais alors justement, après avoir parlé du mouvement plus en lui-même, venons-en à l'exposition, il y a quand même ce fait assez marquant, c'est qu'on voit Mondrian comme Théo van Doesburg ont une vraie implantation en France, et pourtant, aucune exposition sur De Staël n'avait jamais eu lieu en France. Pourquoi cet oubli, et pourquoi d'autre part votre désir d'en proposer une au Centre Pompidou ?
Alors, la première partie de la question, c'est vrai qu'il y a une chose très curieuse, qui est que, alors même que De Staël est un mouvement identifié, malgré tout, et qu'il avait son implantation à Paris, jamais en France il n'y a eu de grande exposition sur le néoplasticisme. Il y a eu une exposition, une très grande rétrospective sur Mondrian en 69 à l'Orangerie, mais c'est vrai que le public français, voire peut-être même la philosophie de l'histoire de l'art en France, n'est pas très portée vers l'abstraction géométrique. La réception de l'abstraction géométrique en France est très faible. Des anecdotes, Malraux disait « Tant que je serai ministre de la Culture, Mondrian ne rentrera pas dans les collections publiques. »
C'est révélateur.
C'est assez révélateur. Mais même avant-guerre, en 22, quand Mondrian participe à cette exposition à la Galerie de l'Effort Moderne sur les maîtres du cubisme, il n'y a que deux acheteurs de Mondrian. L'un est le vicomte de Noailles. Il va installer la peinture de Mondrian dans la villa qu'il se fait construire par l'architecte français Robert Malestévens, et l'autre, c'est le designer et architecte d'intérieur Pierre Charot. Donc, la réception de Mondrian et de van Doesburg, a fortiori, est très faible avant-guerre en France, et est toujours très faible, finalement, après-guerre. Mais oui, parce que les deux grands mouvements qui sont les mouvements de prédilection, finalement, que l'on présente en France, c'est le surréalisme, l'emprise complète d'André Breton sur même l'institution et sur l'histoire de l'art, et le cubisme. En revanche, l'abstraction géométrique, il faut attendre très très tard pour que l'abstraction géométrique commence à percuter les esprits en France.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, c'est que... Donc là, c'est vraiment un projet que Frédéric Miguérou a tenu de longue date. Moi, je suis arrivé au Centre Pompidou il y a 2 ans, et Frédéric m'a associé à ce moment-là au projet que lui avait initié il y a déjà au moins 6 ans, 7 ans, en arrivant au Centre Pompidou. L'idée, c'était effectivement de redonner à ce mouvement la place et la légitimité qu'il a, de fait. Et simultanément, Brigitte Léal, commissaire donc de la partie Mondrian, avait depuis déjà une quinzaine d'années le projet de faire une grande rétrospective sur Mondrian. Qu'est-ce qui fait que ça a été possible? C'est que je crois que cette exposition s'inscrit, d'une certaine manière, dans cette idée des grandes expositions pluridisciplinaires qui sont l'âme et l'identité du Centre Pompidou depuis Paris-Moscou de Pontus-Sultène. Et De Staël, d'une certaine manière, c'est ça. C'est l'idée... De ce point de vue-là, c'est une avant-garde constructiviste, de la même manière que le peuvent l'être l'avant-garde russe. C'est que on est dans une pratique artistique qui contamine, qui cherche à contaminer tous les champs de la vie sociale. Et l'idée de reconstruire des espaces néoplasticiens, d'une certaine manière, c'est un peu cette idée que Pontus Sultan avait mise en place et institutionnalisée lorsque lui-même refabrique la tribune de Lissitzky pour l'exposition Paris-Moscou. Et donc, d'une certaine manière, cette grande avant-garde européenne devait être présentée au Centre Pompidou dans cette idée d'un art pluridisciplinaire.
Et donc justement, c'est un art pluridisciplinaire et c'est surtout, peut-être commencer par ça, un groupe. Qu'est-ce que ça fait d'exposer un groupe, en fait? Parce qu'il y a l'exposition...
C'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est... Oui, c'est exposer un groupe, exposer des idées, exposer une plateforme conceptuelle, c'est assez compliqué. Évidemment, il y a des héros, d'une certaine manière. Van der Leck en est un, au début du mouvement. Van Desbourg en est un, évidemment. C'est le fil rouge, c'est le fil conducteur. Mais en effet, c'est délicat. Enfin, ce qu'on cherche à faire, c'est des salles comme des chapitres d'un livre. C'est-à-dire qu'on est sur des thématiques. Du coup, on n'est pas sur des monographies, on est sur des thématiques. Donc, ça se traduit par des salles où l'on fait se confronter des artistes entre eux.
Et chapitre d'un livre, et en même temps, pas du tout, puisque l'autre caractéristique, c'est en effet différents médiums. Dire qu'on a des peintures, des dessins, des vitraux, des objets.
Oui, c'est le chapitre d'un livre dans le sens où c'est dans l'histoire que ça raconte. Chaque salle raconte une histoire.
Oui.
On a une salle qui est consacrée aux sources, d'où vient le mouvement, une salle qui est consacrée aux premiers pas du mouvement, une salle qui est consacrée aux vitraux, une salle qui est consacrée à la peinture, une salle qui est consacrée à l'architecture d'intérieur, une salle qui est consacrée à l'urbanisme.
Et ça a exposé justement cette diversité de médiums pour le regard, pour le parcours du visiteur. C'est compliqué, ça exige...
Ça exige l'idée qu'en fait on est sur un parcours qui est rythmé. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des densités différentes. Évidemment, la peinture, on ne la présente pas comme l'architecture. C'est-à-dire que quand dans une salle de peinture, on a 15 peintures, la salle est déjà, je dirais, remplie. L'architecture, au contraire, on peut montrer beaucoup plus, on peut varier et densifier de façon plus importante, puisque l'idée, c'est de montrer le process de conception de l'architecte ou du designer, et non pas l'œuvre finale, puisque l'œuvre finale, on ne l'a pas. Donc, ça donne, finalement, c'était pas tellement théorisé au départ, mais quand on voit le parcours, ça donne un rythme, une scansion, finalement, entre des salles très denses, des salles moins denses, des salles où on présente des peintures, où on est plus dans un espace contemplatif, d'autres salles où on a des maquettes et des objets ou des sculptures, et ça donne une interaction plus importante. Finalement, on organise des niveaux de lecture entre des salles de peinture, des salles de dessin et une documentation qui permettent d'essayer de décrypter un petit peu les objets qu'on présente.
Et donc pour finir, cette grande reconstitution de la City in Space de Kistler.
Oui, ça c'était l'autre extension finalement de l'exposition, c'était de dire au cœur du projet de Stein, il y a l'idée de la perception. La vision du monde organise un positionnement de l'homme dans le monde.
Et donc d'offrir
au public la possibilité de s'incarner, de se déplacer, de se mouvoir dans un espace néoplastique. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire deux reconstitutions d'espaces qui ont été construits dans les années 20. L'un est un espace démonstratif construit par Huchard et l'architecte Rietveld à Berlin en 1923, que l'on a reconstruit à partir de documents d'archives que l'on a retrouvés. Et le second élément, c'est cet objet assez énigmatique, à la fois sculpture et en même temps scénographie, qui est ce programme esthétique que Frédéric Kistler, donc l'artiste viennois, appelle la vision d'une ville dans l'espace, et la vision d'une ville future. Et c'est vrai que cet objet, qui est quand même de grande dimension, plus de 15 mètres de long, 4 mètres de haut, ce n'est pas une œuvre originale, c'est une œuvre mythique néanmoins, une quinzaine de photos subsistaient, et à partir de ces photos, on a cherché à reconstituer cet objet mythique, malgré tout, dans l'histoire de l'art.
Je vous remercie beaucoup.
Mais c'est moi.
Et donc l'exposition de Mondrian de Stiel est à visiter à partir du 1er décembre au Centre Pompidou.
N'oubliez pas, vous pouvez aller découvrir cette exposition au Centre Pompidou jusqu'au 21 mars. Mais l'émission, elle, vous pourrez toujours la podcaster. Et tout de suite, on écoute la chronique « Regard sûr » faite par Thibaut Becchini, qui va nous parler d'un retable siennois.
Pour réaliser cette chronique, j'ai choisi de décrire un retable siennois du XIVe siècle, le retable du bienheureux Agostino Novello, peint par Simone Martini vers 1324 et exposé à la Pinacothèque nationale de Sienne. Véritables hagiographies picturales, témoins d'une ferveur religieuse qui ne nous est guère familière, les retables des maîtres siennois méritent plus que le rapide coup d'œil que nous nous contentons souvent de leur accorder. Le retable que j'ai retenu est dédié au bienheureux Agostino Novello, prieur de l'ordre des Augustins, mort en 1309, qui passa à la fin de sa vie dans un ermitage de la campagne siennoise. Le retable se compose d'un portrait central du saint, sur lequel je ne m'arrêterai pas ici, et de quatre scènes latérales qui narrent quatre miracles accomplis par le bienheureux après sa mort. Ce sont ces quatre histoires de miracles post-mortem que je vais m'employer à décrire. La première scène prend place dans un décor architectural finement restitué par le peintre. Arcades crénelées, portes à caissons dorés, vantaux ouverts sur l'obscurité béante d'une tour, ce sont autant d'éléments que le spectateur se plaît à détailler. Des murailles grises en accordéon, qui se déploient comme un décor de carton-pâte, viennent renforcer la dimension théâtrale de la scène. Le regard caresse la rectitude impeccable des pans de mur, goûte l'assemblage plaisant des formes architectoniques, évocation impromptue du temps où l'on jouait au Lego. Une succession d'arcades crée une profondeur télescopique au bout de laquelle on aperçoit la campagne environnante. Les tourelles s'échelonnent, l'œil se promène de l'une à l'autre, mais il ne s'agit que d'un arrière-plan. Sur l'avant-scène, gît entre les bras de sa mère un enfant qu'un loup ou un chien sauvage, on ne saurait dire, vient de dévorer. De son crâne s'échappent des caillots de sang, maculent rouge sur la terre brune. Détail saisissant, de l'œil gauche de l'enfant jaillit un flot de sang. Une femme, gourdin en main, tente de mater la bête féroce, dont la gueule ouverte laisse entrevoir des crocs aiguisés. La cruauté de la scène est rendue par les teintes sanguinolentes des tuniques portées par l'enfant et par la femme qui, vainement, tente de le protéger. C'est alors qu'Agostino surgit de derrière une tour aux allures de donjon, l'index et le majeur pointés en avant, en signe de bénédiction. Des nuées dissimulent la partie inférieure de son corps renversé, la tête vers le bas, les jambes en l'air, forme mystérieuse qui évoque les frondaisons d'un improbable baobab. Le regard glisse quelques centimètres plus loin et voit l'enfant ramené à la vie au milieu de protagonistes en oraison qui rendent grâce au bienheureux Agostino. Le spectateur, en un clin d'œil, passe d'un épisode à l'autre, de la représentation de l'insoutenable à celle de la plus absolue sérénité. La première scène nous offrait une vue d'ensemble de la ville. Après cette première peinture extramuros, le peintre nous fait pénétrer dans les ruelles de Sienne, grâce au récit pictural du deuxième miracle accompli par Agostino. Avec un luxe de détails, Simone Martini restitue l'atmosphère d'une rue siennoise. Enchevêtrement des toits, balcons en surplomb soutenus par des poutrelles incurvées qui rythment la composition, porte entr'ouverte qui laisse apparaître un escalier. Le regard s'arrête sur le garde-fou d'une loggia. Une planchette a cédé, un enfant est en train de tomber dans les airs. Sa mère, affolée, assiste impuissante au tragique spectacle. D'inaudibles cris semblent jaillir de sa bouche. Son effroi est accentué par les stries de son visage. L'œil se perd dans le désordre des vêtements de l'enfant, plis multipliés des étoffes qui rendent compte de sa chute, les bras en avant, la tête la première. Mais, une nouvelle fois, Agostino surgit, saisissant au passage la planchette de la loggia, responsable de la chute. Les curieuses nuées qui dissimulent les pieds du bienheureux apparaissent de nouveau. Dans la ruelle, un groupe de passants, bouche bée, entoure l'enfant, sauvé, droit sur ses jambes. On se plaît à remarquer les échos picturaux, qui par une sorte de renversement, accroissent la portée dramatique de la scénette. Le corps sans équilibre et renversé de l'enfant retrouve, à quelques centimètres d'intervalle, ses appuis et sa droiture. La focalisation est toujours plus intimiste. Avec le troisième miracle, on pénètre à l'intérieur d'une maison siennoise. Simone Martini mêle plus que jamais cadre architectural et temporalité de l'épisode figuré. Le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison correspondent en effet aux deux moments de l'histoire racontée, malheur domestique et miracle accompli par Agostino. Cette juxtaposition des moments a pour cadre une sorte de maison de poupée, véritable vue en coupe d'un intérieur siennois. Au premier étage, une chambre à coucher, un grand lit drapé d'une étoffe à carreaux, deux coffres rouges cadenassés, un berceau, ou pour être plus juste, une sorte de brancard attaché au plafond comme une nacelle, à l'aspect d'un curieux vaisseau aérien. Une des cordes d'attache s'est rompue. Un enfant emmailloté est tombé du berceau et a été propulsé, là réside le dynamisme de la scène, hors de la chambre, sur le toit terrasse qui la jouxte. Le visage maculé de sang, l'enfant est recueilli par une femme terrorisée, agenouillée, les cheveux détachés, la face bouleversée. Une fois encore, Agostino apparaît, un livre à la main, la partie inférieure de son corps toujours nimbée d'étranges nuages verdissants. Au rez-de-chaussée de la maison, se joue alors une scène d'action de grâce où l'on voit quatre femmes, processionnellement disposées, cierges à la main, qui entourent l'enfant miraculé. Apaisées, les jeunes femmes sont décemment vêtues, les coiffures échevelées ont laissé place aux cheveux nattés. Impression de grande sénérité du rez-de-chaussée qui contraste avec l'agitation du premier étage. Le dernier miracle propose une vue de la campagne siennoise. Le peintre transforme les crêtes sénécies, ces collines désertiques qui s'étendent à l'extérieur de la ville, en de véritables pépites d'or. L'Eldorado semble être aux portes de Sienne. On observe un cavalier renversé, les pieds en l'air, qui est tombé de cheval. À quelques pas de là, le même cavalier, en oraison, rend grâce au bienheureux, qui, comme dans les scènes précédentes, apparaît au milieu de curieux nuages. Étrange posture que celle d'Agostino. Certains audacieux n'hésitent pas à le comparer à Superman. Dans cette dernière scénette, la juxtaposition des deux moments, en accentuant plus que jamais leur renversement, cavalier à terre, cavalier en oraison, prend une dimension comique. Peut-être parce que l'intensité tragique est ici moindre qu'ailleurs. Le sang ne coule pas. Le spectateur ne se contente pas d'être ébloui par la méticuleuse peinture urbaine que brosse Martini. L'attrait du retable réside surtout dans les effets créés par la juxtaposition de différents épisodes à l'intérieur de chaque scène. C'est d'ailleurs avec difficulté que l'on parvient à rendre compte de cette juxtaposition. Les mots restituent la trame narrative que la peinture efface pour représenter côte à côte deux moments séparés dans le temps. Le verbe s'affole face à l'abolition picturale de toute chronologie.
On remercie Thibaut de s'être livré à l'exercice difficile de regard sûr. Nous vous rappelons d'ailleurs que vous pouvez tous, chers auditeurs, participer en nous écrivant à l'adresse mail de Transistor. Et nous vous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle émission.
À dans 15 jours!